Alors, je vous propose de commencer. Donc, l'association de la cause freudienne Aquitania et la librairie Mola sont ravis d'accueillir pour vous Sophie Maret-Malval à l'occasion de la parution aux presses universitaires de Rennes, donc de son ouvrage « L'inconscient aux sources du mythe moderne », avec pour sous-titre « Les grands mythes de la littérature fantastique anglo-saxonne ». J'en profite pour vous rappeler que la librairie Mola est une librairie où l'on peut voter pour le prix Oedipe, qui est un peu le Goncourt de la psychanalyse chaque année, sachant qu'il y a trois membres de l'association, de l'école de la cause freudienne, pardon, qui sont en lice. Donc, Charles Wajman, notre Philippe Lacadet régional, et puis Slavoj Zizek. Vous pouvez voter au rayon des sciences humaines. Alors, Sophie Maret-Malval, permettez-moi de vous présenter devant le public bordelais, en commençant par dire que votre formation est atypique et d'une très haute tenue, puisque vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégé d'anglais, longtemps professeur de littérature anglaise à l'université de Rennes 2. Et depuis 2009, vous êtes désormais professeur au département de psychanalyse de l'université de Paris 8. Donc vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Une angliciste, donc, dont le savoir vous permet de nous faire sentir le texte même des romans dont vous parlez, le texte même dans sa version originale. Une angliciste, donc, passée à la psychanalyse. La langue anglaise si riche, qui nous rappelle en passant que Jacques Lacan a pu dire, s'il a pu dire que les catholiques et les Japonais étaient inanalysables, il a pu aussi dire, d'une manière un peu distincte, qu'il y avait dans cette langue anglaise quelque chose qui faisait résistance à l'inconscient. Il a dit ça à Yale et dans le séminaire RSI. Parenthèse refermée. Rappelons, avant d'entrer dans notre sujet, que votre ouvrage, qui est un recueil d'un certain nombre de vos travaux, est en lice pour le prix de la recherche de la Société des anglicistes de l'enseignement supérieur et de l'Association française d'études américaines. Sophie Maret-Malval, vous faites grand cas de quelques romans anglais fort célèbres, datant du XIXe siècle, dont tout le monde connaît le nom. Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde, parce que leur portée a quelque chose d'universel, au point que le cinéma en a fait et continue à en faire, lui aussi, sa matière. Ces romans ont accédé au rang de véritables mythes modernes et mythes de la modernité même. Vous démontrer pourquoi. Non sans avoir discuté, rappelé au préalable ce qu'est un mythe du point de vue de la psychanalyse et du point de vue de Jacques Lacan. Le mythe n'étant en rien une pensée archaïque, dépassée par l'avènement du logos, alors Platon lui-même n'ayant pu s'en passer dans sa fondation de la rationalité philosophique. Vous savez qu'il y a 16 mythes dans les dialogues de Platon. Certains inventés par lui-même. Donc, vous écrivez, je vous cite, « La pensée mythique cohabite avec la pensée scientifique en tant qu'elle est l'énonciation de ce que cette dernière exclut. » C'est votre clé qui va fonder votre découverte, à savoir, ces romans, à travers leurs récits épiques, ont la préscience de venir dire quelque chose, des effets de forclusion du sujet au discours de la science qui monte au zénith en ce 19e siècle. Leurs auteurs y dévoilent, vous dites, un savoir sur les limites de la science, un savoir sur l'inconscient, un savoir sur l'impossibilité pour la science de saisir ce que peut être un désir proprement humain. Alors la modernité, ce n'est pas la science qui a déjà 5 siècles, en fonction de la définition qu'on lui donne, c'est le discours de la science. C'est-à-dire ce discours qui fait qu'à partir du 19e siècle, elle tente de s'emparer de tout et de faire tomber l'homme lui-même, et non plus seulement la nature, d'en faire un objet qui entièrement tombe sous son règne au mépris de ce qui lui est impossible. Et on sent que ces romans mettent en récit ce qui arrive quand est franchi la limite. Alors c'est pourquoi je vous propose cette phrase de Jacques Lacan, issue de sa proposition du 9 octobre 67, qui n'est pas dans votre livre si je l'ai bien lu, pour faire résonner cette phrase, pour faire résonner ce que vous montrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Lacan a dit « Oublier l'interdiction qui fait notre être, c'est s'exposer à un retour de destinée qui est malédiction. » Donc, Sophie Maré-Malval, nous allons vous entendre. Et puis, je vous en remercie, vous avez souhaité quelque chose d'interactif. Donc, j'ai fait appel à 2 psychanalystes, Annick Bouchny, Paul Gilles, qui vous ont lu et qui vont discuter avec vous, puisqu'ils vous ont préparé une salve de questions. Voilà, et je pense que d'autres viendront de la salle. Madame Maré-Malval, nous vous écoutons.
Bon. Que dire de son propre... Ça y est, j'ai envie de bouger les micros. Que dire de son propre livre après sa publication, sans avoir le désagréable sentiment de se répéter, sans éprouver péniblement que l'auteur n'est jamais le mieux placé pour parler de son travail? Commencez par parler d'autre chose. Les circonstances de son écriture d'abord. Je l'ai rédigé sur 10 années, bout par bout, alors que j'étais occupée à autre chose, à m'orienter vers la clinique psychanalytique. Enseignant la littérature anglaise à l'université, je menais toutefois mes recherches dans ce domaine et la rencontre du Frankenstein de Mary Shelley fut pour moi décisive. Mon intérêt pour ce texte fut contemporain de la publication d'un premier livre sur Lewis Carroll qui me porta à m'intéresser à la particularité de certains textes plutôt repérés comme paralittérature, comme tels marginalisés par rapport à ce qu'on nomme communément les grands textes. C'est le cas pour le fantastique et la littérature pour enfants, bien que ceux-ci aient eu un retentissement considérable dès leur publication et qu'ils aient gagné leur lettre de noblesse, à la fois figurant parmi les grands classiques et donnant lieu à de multiples reprises et adaptations cinématographiques notamment. Comment rendre compte du succès particulier de ces textes? Le terme de mythe était volontiers évoqué à leur égard. Tantôt au sujet des personnages qu'il convoquait, tantôt au sujet du texte lui-même. Mais que recouvrait-il? Je commençais à m'intéresser à leurs particularités, à m'apercevoir notamment que ce terme de mythe était convoqué pour des textes bien précis, relevant du merveilleux et du fantastique, publiés au XIXe siècle, en Grande-Bretagne. Et il m'a paru que pour le corpus fantastique, paradoxalement, le nom des créatures avait éclipsé celui de l'auteur. Peu de gens autour de moi s'avéraient en mesure de dire qui était l'auteur de Frankenstein ou de Dracula, donc Mary Shelley pour Frankenstein et Bram Stoker pour Dracula, un écrivain irlandais, alors que ces deux noms propres, Frankenstein et Dracula, étaient d'une grande familiarité à la plupart d'entre nous. Un phénomène semblable peut être observé pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Était-ce le seul fait du cinéma? Je ne le pense pas. car l'adaptation des Misérables n'a pas fait disparaître le nom de Victor Hugo, par exemple. Et il semble bien que ce phénomène soit contemporain du succès que connurent ses ouvrages dès l'origine. Je fis le pari que cela tenait à la nature de ces ouvrages. Pas seulement leur nature générique, c'est-à-dire le fait qu'ils relèvent du fantastique, même si elle y contribue, mais au savoir déployé par le texte. Je m'intéressais aux indications données par Lacan sur le mythe, qui me semblait fournir des clés d'analyse plus sûres que toutes les autres théories du mythe que je consultais. Il s'est avéré que le concept de mythe est lui-même défini de manière variable. Il ressort en effet de la lecture des théoriciens du mythe que toute tentative de définition du concept est déjà interprétation, comme l'indique Mircea Eliade. Je cite Mircea Eliade. D'ailleurs, est-il même possible de trouver une seule définition susceptible de couvrir tous les types et toutes les fonctions des mythes dans toutes les sociétés archaïques et traditionnelles? Le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe qui peut être abordée et interprétée dans des perspectives multiples et complémentaires. Il m'est apparu que pour rendre compte du caractère proprement mythique de ces textes, plusieurs critères étaient nécessaires. Tout d'abord, tous les textes qui avaient pu être qualifiés de la sorte relevaient d'un corpus relativement étroit, donc, je l'ai dit, britannique et restreint au XIXe siècle, d'où le qualificatif que j'ai ajouté de mythe moderne. C'était assez compliqué de trouver un terme qui convienne, pour le distinguer des mythes de l'Antiquité, dont le statut me semble être assez différent. Ils appartenaient tous au genre du merveilleux et du fantastique, le merveilleux pour Lewis Carroll, le fantastique pour Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les textes fantastiques ayant donné lieu plus précisément à l'oubli du nom de l'auteur, et pas le merveilleux. Ils convoquaient l'angoisse, porte d'entrée privilégiée vers l'inconscient, ou plutôt vers le réel au sens de Lacan, touchant aux limites du dire, à l'objet de la pulsion. Mais ils convoquaient aussi la science, dimension d'ailleurs souvent effacée symptomatiquement dans les représentations cinématographiques ou négligée par la critique littéraire. C'est au Lewis Carroll mathématicien que je m'étais intéressée au départ, d'où cet intérêt aussi pour la science. Par ailleurs, ni les qualités d'écriture, ni le caractère fantastique, ni les figures au cœur de ces ouvrages ne pouvaient rendre compte du phénomène mythique. De nombreux récits vampiriques existent. Or, seul Dracula a fixé le mythe dans l'imagination populaire. Il faut bien voir que le vampire avec les longues dents, qui n'a pas d'ombre dans le miroir, qui est repoussé par le crucifix, l'ail, etc., c'est Dracula. Donc c'est un texte littéraire qui a vraiment fixé l'image pour nous, contemporains, du vampire. Avant, il y a toute une tradition du vampire, mais avec certaines caractéristiques, et c'est Dracula simplement qui fixe le mythe dans la culture, on va dire. Donc seul Dracula a fixé le mythe dans l'imagination populaire. Frankenstein occupe une place singulière dans les figures monstrueuses qui perdurent au-delà de leur prolifération actuelle. Il fallait prendre ces textes au sérieux et essayer de comprendre ce qui leur donnait cette portée singulière. J'en conçus plusieurs critères, inspirés de l'enseignement de Lacan, que je mis à l'épreuve sur des textes proches, mais qui n'avaient pas atteint le même statut, donc la nouvelle Carmillade le Fanu, par exemple. Donc voici mes hypothèses. J'ai essayé de les regrouper en trois groupes d'hypothèses. Première hypothèse. Il est nécessaire qu'une intuition concernant la logique de l'inconscient, notamment celle de l'angoisse, de l'objet de la pulsion dans son rapport au langage, gouverne le récit pour que l'on puisse parler de mythe. Tous les textes n'ont pas cette ouverture en termes de savoir. Mais il y en a beaucoup qui l'ont, donc ça ne suffit pas. Seconde hypothèse. Il faut également que celui-ci véhicule un savoir sur le réel et sur le sujet de l'inconscient. Un tel savoir se supporte d'un mi-dire en opposition au discours de la science à l'époque triomphant, en particulier en Grande-Bretagne. En effet, Lacan prend soin d'indiquer que le discours de la science s'est produit en rupture du savoir mythique. Il souligne par ailleurs que la science sert à refouler ce qui habite le savoir mythique. Mais excluant celui-ci du même coup, ajoute-t-il, elle n'en connaît plus rien que sous la forme de ce que nous retrouvons sous les espèces de l'inconscient, c'est-à-dire comme épave de ce savoir, sous la forme d'un savoir disjoint. C'est-à-dire que l'inconscient et l'épave du discours de la science, son produit, son reste, la science nécessitant des conditions d'objectivité et dès lors l'exclusion du sujet pour opérer. L'inconscient est ce qui subsiste du savoir mythique refoulé, dit Lacan. Rappelons que Freud avait déjà une intuition semblable en fondant l'inconscient sur le mythe oedipien. L'opposition entre la science et le mythe, mythos et logos, n'est pas essentiellement historique, comme le présente par exemple Jean-Pierre Vernant, mais structurale. La pensée mythique cohabite avec la pensée scientifique en tant qu'elle est l'énonciation de ce que cette dernière exclut, ce que vous rappeliez tout à l'heure. Elle suppose un rapport au refoulement, une modalité du déchiffrement particulière. Elle repose sur un savoir qui touche à l'impossible à écrire de la science, au réel en tant qu'il gît dans les impasses de la formalisation. Il faudrait peut-être poursuivre cette analyse en considérant le lien de l'écriture mythique et de l'inexistence du rapport sexuel, analyse que je n'étais pas encore en mesure de conduire au temps de l'écriture de cet ouvrage. Contemporain du triomphe du discours de la science, les Alice Books, donc les deux Alice au Pays des Merveilles, aussi bien que Frankenstein et que Dracula, se déploient autour d'un savoir sur les limites de la science et l'émergence d'un savoir sur le sujet de l'inconscient qui vient se loger en leur ligne. Sans doute est-ce là ce qui leur confère le statut de mythe. On ne trouvera rien de comparable dans un texte comme Carmilla, par exemple. En effet, dans Dracula, à travers l'observation d'un patient zoophage par le docteur Seward, l'un des protagonistes principaux du roman, se profile une interrogation sur la folie ordinaire, associée au vampirisme, qui se présente comme une intuition de la division du sujet. Le discours sur la folie vient donc faire objection au discours de la science et à la raison. Il ouvre notamment sur l'intuition de la logique de l'inconscient, en soulevant l'énigme du désir et du fantasme. Parce que c'est ce que je démontre, je n'ai pas le temps de refaire toute la démonstration, mais c'est ce dont parle mon livre, en partie. De la même manière, Frankenstein ouvre un savoir sur l'inconscient. Le monstre est une incarnation de l'homme à l'état de nature. Il répète l'expérience de la tabula rasa et se présente comme une exploration des théories de Locke concernant l'état de nature. Il supporte l'intuition selon laquelle l'homme, ni bon ni mauvais par nature, est gouverné par un désir qui l'agit à son insu et dont il méconnaît la cause. Par ailleurs, Mary Shelley place au cœur du débat sur la rationalité le passage de la magie à la science et examine le rapport de la science au sujet. Le roman se fonde sur la révolte d'un sujet, le monstre, contre le discours de la science et de la rationalité au fondement de la modernité. En ce qui concerne Lewis Carroll, il faut rappeler qu'il était mathématicien, qu'il écrivit une vingtaine de traités de géométrie, d'algèbre et de logique, que sa production en ce domaine fut bien plus abondante que son œuvre littéraire, qu'il ne tenait que pour une récréation fantaisiste, alors qu'il qualifia son dernier manuel intitulé « Symbolic Logic » d'œuvre destinée à Dieu, « A Work for God ». Il adopta toutefois en ce domaine des thèses conservatrices en matière de logique, cherchant à sauver Aristote contre les apports de ses contemporains, notamment John Venn. Paradoxalement, son œuvre littéraire est souvent citée en exemple par les philosophes, les linguistes et les mathématiciens, car elle recèle des intuitions concernant le langage qui s'avèrent contradictoires avec les propres thèses de l'auteur, et bien plus en avance par rapport à notre temps. Enfin, souvent on dit qu'il anticipe Saussure, alors même que lui cherchait à aller contre l'arbitraire du signe, c'est pas du tout sa pente à lui. Les jeux de langage au cœur des Alice Books ruinent en effet les conceptions du logicien, anticipant sur la modernité, dévoilant son intuition de l'hétérogénéité des mots et des choses, ainsi que de l'arbitraire du signe, mis en évidence bien plus tard par les théoriciens de la linguistique et de la philosophie. Dans ses deux œuvres, Alice au Pays des Merveilles et À travers le miroir, il anticipe également sur les développements formalistes de la logique. Donc, même Wittgenstein a cité Lewis Carroll. Venn lui-même cite Lewis Carroll, mais il ne cite jamais son œuvre mathématique, il cite son œuvre littéraire. Il y émerge enfin un savoir concernant le sujet de l'inconscient qui reste toutefois inaccessible à l'auteur lui-même, contrevenant au principe que celui-ci pourtant défendit. Ce savoir insu, qui se loge dans les écrits de Lewis Carroll, est au cœur du mythe. La dialectique entre discours de la science et intuition de l'inconscient, qui se fait jour dans les Alice Books, dans Frankenstein ainsi que dans Dracula, se déploie en outre sur le mode de la contradiction ou du paradoxe. Les intuitions de Carroll ruinent les fondements des thèses que lui-même défend. Mary Shelley se montre profondément ambivalente dans son roman à l'égard de la rationalité. Pourtant, on sait qu'elle devint une victorienne plutôt conformiste par la suite. Le discours explicite de Dracula marque par ailleurs une nouvelle tentative pour résoudre ses intuitions, d'une part par la métaphysique et l'occulte, d'autre part en faisant appel à de nouvelles explications. Le vampirisme et la maladie mentale se trouvent notamment rapportés à des causes biologiques qui permettraient de rendre compte de ce qui a jusqu'alors échappé à l'entendement et de revenir sur l'intuition qui se dessine dans le texte de l'impossible à dire, cautionnant une rationalité pourtant mise à mal. Cette dialectique entre éloge de la rationalité et intuition du sujet de l'inconscient, exclu par le discours de la science, présente dans ces trois récits, semble plutôt confirmer l'hypothèse de Claude Lévi-Strauss lorsqu'il indique que l'objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre une contradiction. Lacan retient de l'analyse de Lévi-Strauss l'idée selon laquelle la vérité du mythe est supportée par une contradiction. On ne peut y avoir accès notamment que grâce à l'indirection inhérente à la mise en fiction. En cela, le mythe s'oppose encore à la rationalité scientifique. Remettre ses pas dans ceux de Lacan conduit à faire l'hypothèse que le mythe moderne est le produit du discours de la science, mais que sa vérité vient en dévoiler les limites qu'elle porte sur ce qu'il méconnaît. À l'opposé des analyses du mythe conçues comme interprétation, selon lesquelles le récit ordonne l'univers, lui donne sens, à l'instar des approches de Mircea Eliade, de Paul Ricoeur, pour qui le mythe est promesse d'ordre cosmique, ou encore de Lévi-Strauss, qui conçoit néanmoins le mythe comme solution imaginaire à une contradiction, notre perspective conduit plutôt à souligner que le mythe moderne ouvre à un savoir sur les limites du sens et de la rationalité. Selon cette perspective, il est le produit du discours de la science, conséquence du soupçon porté sur le sens par la formalisation scientifique, comme l'indique Jacques-Alain Miller, mais il constitue une écriture de la vérité refoulée par la science. En outre, le savoir sur la pulsion vient en opposition au platonisme de la science, encore prévalent au XIXe siècle, selon lequel tout réel est rationnel. Les textes de ce corpus en attestent. Le fantastique s'est sans doute avéré un genre particulièrement propice à développer ce savoir, non seulement parce que l'angoisse dont il traite porte à placer au cœur de la fiction le dévoilement de l'objet de la pulsion quand se déchire le voile du fantasme qui le masque, mais également parce que, comme le souligne Denis Mélier, en donner une approche qui permette une catégorisation adéquate s'avère d'une extrême difficulté. Il conclut qu'on ne peut en saisir d'autres caractéristiques du fantastique que le sentiment de terreur qu'il suscite. À force de se centrer sur l'affect d'angoisse, le genre défie les catégories et les critiques littéraires. Le véhicule est travaillé par le savoir qu'il élabore. C'est pourquoi le présent ouvrage se penche plus précisément sur les grands mythes fantastiques du XIXe siècle, interrogeant également la position particulière du roman de Stevenson, enfin c'est entre roman et nouvelle, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Troisième hypothèse, le mythe suppose une référence à l'autre, au grand autre. Lacan précise qu'il est un savoir sur son incomplétude. Dès lors, il tente à disparaître à l'époque de l'inexistence de l'autre, comme l'ont formulé Jacques-Alain Miller et Éric Laurent, soit dans les récits qui ne convoquent plus ou à peine la référence à l'autre, à l'idéal et à la vérité. Les trois textes du XIXe siècle auxquels nous avons fait référence furent écrits en un temps où la croyance en l'existence de Dieu était encore dominante. La figure de l'autre s'y trouve centrale, alors que le vampire ou le loup moderne ont cessé de l'incarner. Ils sont devenus de pauvres hères, des sujets divisés, plus même des créatures du diable, comme en témoigne par exemple Interview with the Vampire d'Anne Rice, ou les nombreux livres pour enfants qui jouent de cette image d'un loup inoffensif. Vous avez tous rencontré des petits chaperons rouges qui jettent des seaux d'eau à la tête du loup, des lapins qui lui tendent des pièges, le loup qui se repent et qui vient manger à la table des petits cochons. Enfin, ça, c'est vraiment le loup moderne et le vampire. J'ai trouvé aussi un vampire qui n'aimait que les cornflakes et qui détestait boire du sang, alors qu'il était forcé par ses parents de boire du sang. Bon, voilà, on trouve tout. tout le temps dans la littérature pour enfants maintenant ce traitement-là de la figure du loup ou du vampire notamment. Le mythe antique comme le mythe moderne ont pour composante essentielle une figure d'exception, maléfique, héroïque ou divine, alors même que dès la fin du XIXe siècle, celle-ci s'éclipse quand viennent sur le devant de la scène les failles de l'homme ordinaire et la fuite du sens. Dracula, comme Frankenstein, sont construits autour d'incarnations d'un autre réel, à la jouissance illimitée, buveur de sang forcené, prédateur, figure évocatrice du père de la horde du mythe freudien de Totem et Tabou. En opposition à celle-ci, subsiste la référence à Dieu, dont les protagonistes se font les missionnaires pour Dracula, ou une évocation de l'idéal du père en la personne du vieux de Lacey pour Frankenstein. Ce dernier occupe la place du père symbolique, marqué par la castration, il a perdu la vue, et qui supporte un idéal de bonté et de justice. Rien de tel dans The Turn of the Screw d'Henry James ou Interview with the Vampire, pour citer deux textes d'époque et de facture différentes, mais qui partagent la caractéristique des récits contemporains d'avoir abandonné toute croyance à l'autre. Ces récits sont marqués par une époque où l'on a cessé de croire à l'existence d'une garantie, dont Jacques-Alain Miller, enfin une garantie de la vérité, dont Jacques-Alain Miller montre qu'elle est le résultat de la disjonction du sens et du réel, issue de l'expansion du discours de la science à la fin du XIXe siècle. Néanmoins, on pourrait légitimement se poser la question du statut d'Harry Potter, comme résurgence du mythe au XXIe siècle. L'ouvrage a connu un succès de librairie fulgurant dès le premier volume. Le nom du personnage principal a mis en éclipse le nom de l'auteur, un petit peu. Bien que connu, tous n'associent pas Harry à son auteur, J.K. Rowling. Il est en tout cas un peu moins connu, certainement, que le nom du personnage. Le récit s'enracine dans la littérature du 19e britannique. L'esthétique gothique, le fantastique, on retrouve cette même esthétique. Harry reste pourtant ancré dans le discours du temps. La dernière version cinématographique met en évidence, par exemple, la promotion du signifiant de l'évaluation, qui est le seul programme proposé par l'équipe maléfique qui a renversé les officiers du ministère de la magie. Ils disent « Maintenant, vous allez être évalués. » En dépit de ses pouvoirs exceptionnels, Harry est faible. Il ne peut agir seul, sans ses copains. Il recule, il tombe amoureux. Donc on est plutôt plus du tout du côté de la figure d'exception, mais du sujet divisé un peu. Mais quand même, il a des pouvoirs. Mais le retour de l'esthétique gothique marque le déplacement du récit sur l'autre scène, celle du fantasme, pour lequel la référence à l'autre perdure. Ainsi, l'univers d'Harry comporte-t-il des figurations de l'autre, Dumbledore notamment, ou le père de Harry. Même si le premier est mort à l'orée du récit et que Dumbledore s'éteint avant la fin. Le dernier, pardon, le père d'Harry. Ces figures sont clairement support d'un savoir sur la castration de l'autre. Elle n'incarne plus tout à fait l'idéal sans la faute ou la faiblesse. Même Harry porte sur le front la marque de l'éclair divin qui est aussi zébrure de l'autre. Le dernier tome ouvre néanmoins sur une postmodernité bien plus inquiétante, sur l'ère de l'évaluation, d'où s'efface toute référence à la garantie. Ancré dans son époque, Harry me semble ainsi pouvoir répondre aux critères de mythe par son intérêt pour le passage d'un monde à l'autre, du 19e à la modernité, son déplacement vers la scène de l'inconscient où subsiste l'interrogation sur l'autre.
Je remercie à tous d'être venus et je remercie beaucoup Sophie Marie Malval pour son ouvrage et le fait d'être venue à Bordeaux nous en parler. Merci, à bientôt. Bravo.